France Culture.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire. Une conversation littéraire consacrée aujourd'hui à la ville de Trieste. Trieste à l'identité de frontière, Trieste cité limite, ville des confins autrichienne jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, puis italienne à la frontière de la Slovénie entourée par elle, ville aujourd'hui bilingue et autrefois trilingue. Trieste a une relation tout à fait particulière avec la littérature et notamment la littérature du premier XXe siècle. Nous avons tous en tête les noms d'Italo Svevo ou de James Joyce qui éclairent de leur amitié les années 1910. Joyce a passé 16 années à Trieste, il en repart en 1920, justement quand la ville devient italienne. Aujourd'hui, Trieste est la ville d'écrivains de la trempe de Claudio Magris ou de Paolo Rumiz. Trieste a été aussi la ville de personnages littéraires, de figures, comme l'éditeur, écrivain sans œuvre, dit de lui Enrique Villamatas, Bobby Bazlen, l'ami de Roberto Calasso, sans parler de la version slovène de la littérature de Trieste. Un auteur dont la vie recouvre tout le XXe siècle, par exemple comme Boris Pahor, est né dans l'Empire des Habsbourg en août 1913 et est disparu en 2022, âgé de 109 ans, toujours à Trieste. La littérature triestine, dont la richesse semble nous aveugler chaque jour un peu plus, nous allons la célébrer aujourd'hui, bien sûr, identité de frontière, mais aussi en découvrant des poètes triestins qui n'avaient jusqu'ici pas ou peu été traduits en français, et fêter par la même occasion la maison d'édition qui les publie, ces poètes, les jeunes éditions Triestiana, dont nous avons la chance de recevoir aujourd'hui les éditeurs et traducteurs. J'ai nommé Laurent Fenero et Pietro Mili. Bonjour Laurent Fenero.
Bonjour.
Bonjour Pietro Mili.
Bonjour.
Ce qui surprend tout d'abord quand on se penche sur vos biographies, c'est que vous êtes tous deux, avant d'être traducteur, éditeur, vous êtes tous deux musicologues. Assez surprenant, peut-être, Laurent Fenero.
Oui, tout à fait surprenant. Il y a une raison objective à cette découverte de Trieste qui est que j'avais été invité pour donner des cours à l'université de Gorizia. Et à ce moment-là, j'ai décidé de visiter cette ville que je ne connaissais pas. C'était il y a une quinzaine d'années à peu près. Et avant de partir, j'avais relu Trieste dans mes souvenirs de Gianni Stuparic. Et dans ce livre de Stuparic est évoqué un poète, Virgilio Giotti, qui n'était pas traduit ou très très peu traduit à l'époque en français. Ce poète m'a fasciné, je ne sais pas pourquoi, avant même que je le lise. Et j'ai commencé à fréquenter les librairies de Trieste pour essayer de trouver des éditions de ce poète avant de me mettre à sa traduction.
Alors justement, on commencera tout à l'heure par lui, par Virgilio Giotti. Mais se lancer dans une entreprise de traduction, c'est une chose. Fonder une maison d'édition consacrée à la poésie triestine, c'en est une autre.
Oui, disons qu'il y a un humus extraordinairement riche dans cette ville. Beaucoup de poètes de premier plan. On connaît Saba, qui est sans doute la figure la plus importante dans le domaine poétique de la ville. Mais ce dont je me suis aperçu en fréquentant les cercles triestins, c'est à quel point cette poésie est riche, elle est variée, elle subit des influences de toute l'Europe. Et il fallait les traduire. Et je tenais à le faire avec un degré de liberté totale. Et Pietro Mili m'a suivi dans cette aventure.
Et est-ce que vous aviez déjà traduit alors de la poésie italienne auparavant?
J'avais traduit Giotti. J'ai commencé par traduire...
Donc c'était votre première expérience?
C'était ma première expérience de traduction. J'étais très anxieux. Et j'avais demandé à une amie traductrice de relire ce que j'avais fait à l'époque. Elle l'avait fait très généreusement. Et Pietro, acceptant de me rejoindre dans cette entreprise, nous travaillons dorénavant en duo.
Et vous alors, Pietro Mili, comment ça s'est passé cette rencontre avec la traduction?
Alors, pour ma part, j'ai connu Laurent en 2011 et grâce à la musique, puisque je travaillais à ce moment-là sur un compositeur italien qui s'appelle Giacomo Manzoni, dont Laurent avait traduit les écrits. Puis quelques années après, en 2015, j'ai appris qu'il avait traduit un texte de Virgilio Giotti, Les notes inutiles, publié par les éditions Conférences. C'était mon premier contact avec la littérature triestine et c'était un texte qui m'avait vraiment marqué puisque dans ce livre, le poète évoque la disparition de ses deux enfants. Par la suite, il m'a offert également un volume dans lequel il y avait quelques traductions des poèmes de Cergoli. Et donc, quand il m'a proposé de fonder cette maison d'édition, Tristiana Édition, en 2021, j'étais vraiment ravi de pouvoir participer à ce projet.
Alors, on va commencer peut-être par justement Virgilio Giotti, c'est-à-dire s'intéresser non seulement au début des éditions Triestiana, mais aussi à une partie de la poésie italienne qui est peut-être méconnue en France, qui est tout ce qu'on appelle la poésie dialectale, un peu entre guillemets, et qui a une grande importance en Italie dans l'histoire de la littérature italienne jusqu'au 20e et au 21e siècle, mais qui est peut-être l'aspect le moins connu en France, Laurent Fenéron.
Oui, parce que c'est une littérature qui est extrêmement difficile à traduire, ce qui suppose un début de connaissance au moins du dialecte, et les dialectes sont riches dans ce pays. Ce qui est tout à fait frappant quand on va dans cette zone du nord de l'Italie, c'est à quel point les dialectes changent en l'espace de 20 kilomètres à peine. Vous êtes à Grado, vous entendez le dialecte de Grado, qui est un proto-vénitien, vous montez vers le Frioul, vous avez le dialecte frioulan, vous descendez vers Montfalcone, c'est encore un autre dialecte, vous descendez à Trieste, c'en est encore un autre, vous allez à Rovigne, vous avez un dialecte qui est très influencé par le slave. En l'espace de moins de 100 kilomètres, on a des langues très différentes, avec des façons de parler du réel très différentes.
Est-ce que c'est aussi lié, bien sûr, à un héritage historique, vraisemblablement, selon les différentes configurations politico-géographiques de la région?
Oui, absolument. Si on prend l'exemple du dialecte de Grado, qui était une île jusqu'au début du XXe siècle et qui n'a été rattachée à la terre ferme que par des travaux aux infrastructures particulièrement lourdes et par deux routes, on pourrait penser que c'est une langue arrêtée par son insularité. Et en fait, on découvre que le Frioul à côté a importé certains éléments dans le vocabulaire, qu'il y a eu des invasions hongroises qui ont importé des éléments hongrois dans le vocabulaire, qu'il y a eu des bannis de Florence qui sont arrivés à Grado, qui ont apporté des éléments florentins, que évidemment l'Empire austro-hongrois a apporté des éléments de langue allemande, et que les troupes napoléoniennes ont apporté des éléments de langue française. Donc, cette insularité de la langue, elle devient un miroir de l'univers de l'Europe centrale.
Pietro Milli ?
Oui, il me semble aussi important de rappeler que le dialecte de Trieste est lié aussi à l'histoire de la République de Venise, puisque voilà, le dialecte qu'on parle à Trieste est par exemple le même, à la même source que celui qu'on parle à Venise ou à Padoue, ville dont je suis originaire. Et donc, il y a effectivement mille nuances dans ce dialecte en fonction des différents territoires où il s'est développé.
Oui, votre dialecte, c'est le vénitien de Padoue.
Oui, tout à fait, exactement.
Et on vous entendra d'ailleurs tout à l'heure lire donc des textes triestins. Il faut dire que les distances, vous venez de le signaler, sont pas très grandes. Venise, Trieste, on parle de 150 kilomètres à peu près, si je me trompe pas. Plus long par le train, parce qu'on passe par Udine, généralement, qui fait quand même un gros détour. Mais on est vraiment dans cette position complètement limite de l'Italie, puisque la ville même de Trieste, et on va l'entendre dans toutes ses influences, a rejoint l'Italie de haute lutte, on pourrait dire, après la Première Guerre mondiale, Pietro Milli.
Oui, et puis je dirais aussi que le dialecte tient une place assez paradoxale en Italie, c'est-à-dire qu'il y a toute une littérature de grande importance, mais qui finalement ne fait pas forcément partie du canon littéraire. Par exemple, à l'école, on enseigne peu les poèmes, la littérature issue du dialecte. Alors que paradoxalement, on s'intéresse beaucoup au dialecte du grec ancien, les différentes nuances entre la poésie de Sappho, d'Anacreon, auteur qui d'ailleurs a été lu et apprécié par un poète comme Virgilio Giotti.
On parle de schizophrénie. Non, il faut trouver un autre mot pour définir la division en trois parties. Comme on fait? Les mots, je ne les connais pas. Et comme ça, le Triestin ne connaît pas les mots pour définir soi-même. Parce que le dialecte qu'on parle à Trieste, il est le dialecte de Venise modifié pour des mots autrichiens, des mots slaves et des mots italiens, vraiment. La langue, l'expression idiomatique triestin est la langue qui est prime dans le meilleur de deux façons, l'angoisse et la division. la grandeur de l'Empire austro-hongrois a laissé une hérédité de félicité. Il était un rêve, le rêve de l'année passée. Et alors je dis que le Triestin imagine son futur avec le rêve de l'année passée. Trieste était une grande ville très importante du point de vue commercial, industriel, avec un port très important. Non? Aujourd'hui, tout ça est devenu rien. Seulement un rêve. Un rêve de grandeur. Quand je retourne à Trieste, je souffre terriblement. Parce que je vis en Italie. Et Trieste, ce n'est pas l'Italie. Quand je suis à Trieste, je suis dans une ville qui regarde l'Italie comme une mère putain. Hein? Ça, c'est le nœud de le nationalisme. La mère putain. C'est la patrie pour les Triestins, non? Complexe d'infériorité.
Nous venons d'entendre le comédien et dramaturge triestin Mario Maranzana dans un documentaire de France Culture de 1992. Et on voit bien tout de suite la problématique, c'est-à-dire à la fois un dieu en trois personnes, un peu le dialecte c'est de l'italien, un peu d'austro-hongrois, et puis la présence slovène. Un rapport à l'Italie assez compliqué, mais en même temps, voilà, une existence, une vitalité assez extraordinaire, Laurent Fénéro.
Oui, une vitalité extraordinaire, une inventivité dans la langue, et puis une nostalgie jusqu'à transformer sa propre histoire en mythe. C'est le geste qu'accomplit Ciargoli, c'est de faire de l'histoire un mythe, et ce mythe, c'est celui de l'Empire austro-hongrois. Et pour un grand nombre de Triestins, dont Ciargoli, la fin de l'Empire austro-hongrois, il appelle ça en allemand, die Katastrophe. C'est la catastrophe. C'est la fin d'un monde. Et Trieste ne fait que survivre à elle-même depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Si on prend aussi des expressions qu'on peut trouver chez Basaglia aussi, qui a été un important médecin de Trieste.
Pietro Milli, est-ce que ce souvenir du bonheur, ce rêve du passé, cette année dernière, vous apparaît aussi comme une des caractéristiques de la poésie triestine?
Absolument, oui. Et je dirais que ce qui fait l'essence de Trieste et sa spécificité par rapport à d'autres villes italiennes, c'est aussi le fait que, comme le dit Angelo Ara et Claudio Magris, Trieste est sa littérature. Elle s'identifie totalement à sa littérature. Il y a par ailleurs un caractère spécifique de la littérature triestine, c'est ces dimensions liées à l'introspection qui étaient bien mises en évidence dans l'extrait qu'on a écouté, le rêve. Et il faut rappeler également que Trieste, c'est la ville par laquelle la psychanalyse entre en Italie grâce à la figure d'Edoardo Weiss qui est par ailleurs citée dans le recueil de Ciargoli.
Oui, on se souvient tous de Svevo, de la conscience de Zeno, de ce roman à la fois triestin mais en même temps justement un peu autrichien dans cet aspect psychanalytique. Rentrons alors, si vous voulez bien, un peu dans les détails, mais en tout cas dans l'œuvre de Virgilio Giotti. Donc, premier volume, Le Chansonnier, que vous avez traduit donc l'année dernière, si je ne me trompe pas.
Il y a deux ans, Petit Chansonnier amoureux, qui était son premier recueil, qui est un recueil de jeunesse avec des tonalités amoureuses, mais déjà une sorte de pressentiment sourd d'une omniprésence de la mort. Et puis la trajectoire de Giotti est une trajectoire tragique, comme on en voit beaucoup dans ces territoires de frontières. Il a trois enfants, une fille et deux garçons. Cette famille est soustraite à l'éducation publique, puisqu'on est dans les années 1920, et Giotti ne veut pas que ses enfants soient éduqués dans l'école fasciste. Donc il leur donne une base culturelle considérable, qui est une base de littérature, de dessin, de peinture, de langue, d'histoire. Il fait donner des cours de sciences par Guido Vogel à ses enfants. Il les initie aussi au maniement du bois, au maniement du tissu. Il leur donne une éducation qui est une éducation d'un humanisme rare. Et ses deux fils décident de partir en Russie, non pas parce qu'ils sont fascistes, non pas parce qu'ils veulent faire la guerre, mais parce que c'est le territoire de leur mère. Leur mère était russe. Et les deux enfants vont trouver la mort pendant la bataille du Don. Giotti ne sait rien de la mort de ses fils pendant 3 ans. Il apprend la mort de l'un d'eux en 1946. Il ne saura jamais rien de la mort du deuxième. Et il écrit ce recueil bouleversant dans ses années d'attente et de deuil.
Ce recueil, le second, qui s'appelle Soir, donc.
Soir, oui.
Et il est né en 1885, si je me trompe pas, et mort en 1957. Et on voit déjà un aspect important, justement, de ce côté de transformation de Trieste, puisque il se choisit un pseudonyme italien, ou qui sonne italien, mais son nom de baptême, c'est Schoenbeck. Il s'appelle Virgilio Schoenbeck. Et ça, c'est très fréquent aussi dans la littérature de Trieste. C'est quelque chose qui frappe beaucoup, c'est la transformation des noms et des noms de famille.
Ah, c'est un territoire de masques. Saba écrit sous un pseudonyme, Svevo écrit sous un pseudonyme, et Giotti aussi. Pietro Milli a évoqué l'apparition de la psychanalyse. C'est aussi un territoire fortement névrotique.
Pietro Milli, est-ce que vous voulez bien qu'on lise justement un de ses poèmes sur à mes fils morts, et comme ça on va entendre la voix en dialecte de Virgilio Giotti.
Ombre di mi figli, ombre di mi fioi, prima che sparisse un cami, stemo qua un poco insieme, una volta ancora, insieme, ciacolemo e ridemo. Se gave pianto, pianzer non sta più, ormai sughemo se ioci tutti. Andeghe far una carezza a vostra mamma. Pianzer non servi, se morti tanti tanti, e papà e mamme e fioi, tanti ga pianto e pianzi. Sto qua nassi nel mondo, nassi e se sempre nato. Se non go savu darve tutto quel che bramavo, in cuor, oh perdoneme, del ben che devo altri govù, mi ve ringrazio. Adesso, qua, che ancora una volta stemo insieme, un poco, e insieme, come nei nostri anni bei, ciacolemo e ridemo.
Ombre de mes fils, avant que je disparaisse aussi, restons ici un peu ensemble. Une fois encore, ensemble, bavardons et rions. Si vous avez pleuré, en pleurs ne soyez plus. Alors séchons nos yeux tous, et allez faire une caresse à votre mère. Pleurer ne sert à rien. Tant et tant sont morts, et père et mère et enfants, tant ont pleuré et pleurent. Cela advient dans le monde, advient et est toujours advenu. Si je n'ai su vous donner tout ce que je désirais, en mon cœur, oh pardonnez-moi, de l'amour que de vous j'ai eu, je vous remercie. Maintenant, ici encore, une fois restons ensemble un peu, et ensemble, comme en nos belles années, bavardons et rions. C'est grave, majestueux, mais en même temps, plein d'un sentiment très fort, mais qui s'exprime d'une façon presque simple et légère. C'est ça qui caractérise un peu cette poésie.
Absolument, ce n'est pas une poésie cérébrale, c'est une poésie qui se fonde sur des sentiments, des sensations, des affects, et qui se traduit souvent en images. Et c'est une poésie que je trouve va droit au cœur, parce que voilà, il n'y a pas ce filtre de la pensée, ou du moins il n'apparaît pas immédiatement. Donc c'est voilà une poésie qui arrive à communiquer et à fonder en quelque sorte, comme le disait Laurent, une forme de mythologie. Mais une mythologie sans Dieu, où en fait ce qui prime le plus important, c'est le quotidien, les éléments du quotidien, une table dressée avec de l'eau, le drap blanc d'un lit, des éléments voilà, infimes, mais qui prennent une importance capitale dans sa poésie.
Alors Laurent Fanero, pour le traducteur, quel est le défi, la complexité ?
Pour moi, je dirais que la chose la plus délicate pour la traduction de Giotti, c'est le rythme. Parce que c'est un rythme très rapide dans l'original, qui peut vite devenir lourd en français. Donc la position d'un mot dans un vers permet d'alléger le français pour essayer de retrouver cette légèreté que vous évoquiez du vers de Giotti. Ça, c'est la plus grosse difficulté, je crois.
Et Giotti s'inscrit dans cette tradition donc, de la poésie dialectale italienne. En ça, est-ce qu'on entend justement des parentés avec d'autres poètes dialectaux ? De qui se sent-il proche, en fait, en réalité, lui, quand il écrit ? D'un milieu triestin, certes, mais ou plutôt d'un ensemble.
Pas tellement.
Pas tellement.
Je crois que son poète de prédilection, c'était Leopardi. La petite fille de Giotti m'a fait ce bonheur de me donner à voir l'exemplaire des Cantiques de Leopardi annoté par Giotti et relié par Giotti, parce que c'était aussi un homme qui avait une capacité manuelle extraordinaire et il reliait ses livres. La reliure est absolument sublime. Je dirais que c'est plutôt donc Leopardi, parfois quelques poètes chinois, les poètes grecs, assez peu les triestins, et il faut préciser une chose, c'est qu'il ne parlait jamais le triestin. Il parlait exclusivement italien, il se refusait à parler le triestin, il disait que le triestin était la langue de la poésie, qu'on ne parlait pas la langue de la poésie, on l'écrivait.
Ah, ça c'est étrange, Pietro Bini. Non, est-ce que vous retrouvez ça chez d'autres personnes? Est-ce que c'est fréquent, ce rapport au dialecte?
Bah, on va dire que, en ce qui me concerne, j'ai constaté qu'il y a une connotation parfois négative liée au fait de parler en dialecte, puisque ça peut être parfois considéré comme la langue des rustres, des gens peu cultivés. Alors même qu'il y a, et c'est le cas de Cergoli, des personnes qui sont issues d'un milieu plutôt aisé et qui parlent couramment dialecte, même au quotidien. Voilà, c'est en fonction des lieux, des personnalités, il y a parfois une connotation négative qui, par contre, dans cette littérature-là, est absolument transcendée.
Mais d'autant plus que peut-être parce que le dialecte, c'est la langue de la République de Venise, c'est-à-dire qu'on a écrit toutes les grandes comédies du XVIIIe siècle, les opéras, énormément de littérature sont écrits en Vénice. En réalité, donc c'est quand même une langue de très haute culture, non?
Oui, tout à fait, mais en même temps, historiquement, la langue standard à l'italien s'est imposée au fur et à mesure, puisque c'était un synonyme d'union nationale, alors que les dialectes étaient plutôt synonymes de division culturelle et au niveau même politique. Et donc, on a tenté de repousser en quelque sorte les dialectes, à la fois, je pense, dans l'enseignement et puis aussi dans la vie quotidienne, tout simplement.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Laurent Fenéraud, je vais m'adresser à l'éditeur que vous êtes. Il faut signaler le succès du premier volume du chansonnier de Virgilio Giotti, puisqu'il est épuisé.
Qui est épuisé en 2 ans. C'est à ma plus grande surprise, je dois dire.
Non, mais c'est beau, ça veut dire que ça parle encore aujourd'hui, tout simplement. Au-delà du fait que ce soit triestin ou pas, c'est quand même une poésie qui rencontre facilement un public.
Je pense que c'est une poésie d'une humanité extraordinaire. C'est une leçon d'humanité, me semble-t-il, le répertoire de Giotti. Et c'est en même temps une leçon de poésie. Et d'avoir réussi, pour moi, pour dire les choses très simplement, en fait, Giotti est un saint. Il y a une austérité, une simplicité, une douceur, une chaleur dans sa poésie tout à fait extraordinaire, et en même temps une douleur profonde, mais qui n'atteint jamais une violence expressionniste, qui est une douleur contenue, maîtrisée, et maîtrisée au prix de très grandes souffrances pour lui, je pense.
Et on retrouve aussi des éléments de paysage, c'est-à-dire des descriptions de soleil, de la lune, des saisons, les vallées, les collines, des éléments très simples comme ça, mais qui justement projettent assez facilement le lecteur ou l'auditeur, parce qu'on a l'impression qu'il y a un rapport aussi justement à l'audition, à la chanson, et au-delà une forme de musicalité. Pietro Milli, vous qui avez traduit
le texte. Oui, absolument. Effectivement, alors James Joyce a qualifié la poésie de Cergoli comme ayant une tessiture musculeuse, c'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte un rythme qui se dégage de cette poésie, une intonation qui est absolument caractéristique et qui est liée effectivement au fait que c'est au départ une langue orale et qui donc est liée à une vivacité, à une vie culturelle, à une vie quotidienne aussi, qui est très concrète. Et donc c'est une poésie qui s'appuie sur le concret, sur une réalité, une vie qui est ancrée dans le quotidien.
Trovandomi oggi in visita nella mia libreria antiquaria a Trieste, ho avuto ancora una volta occasione di meravigliarmi del molto tempo e delle molte parole che occorrono agli uomini per concludere o lasciar perdere il più piccolo affare. Era in discussione l'acquisto
da parte della libreria di una
enciclopédie. L'ai connu quand il possédait cette fameuse librairie antiquaire qu'il avait, qui avait un catalogue qui était distribué dans tout le monde et qui allait partout, parce que il y a des choses fantastiques qui sont passées par sa librairie antiquaire. Même manuscrits de la Jérusalem délivrée du Tasse. Et évidemment, pendant ma vie, Saba vivait une vie très retirée parce que sous le fascisme, il y a eu aussi les lois raciales. Et on ne l'a pas importuné, mais disons, on l'a mis en arrière-plan pendant très longtemps. Alors il y avait seulement les personnes d'avant-guerre et peu de celles de mon âge qui connaissaient le Saba comme un grand poète. Moi, j'ai eu la chance de le savoir parce que mon professeur de composition, qui était juif lui-même, le professeur Lévy, était peut-être un des amis les plus intimes de Saba. Alors, par lui, j'avais connu. Et puisque je fréquentais cette librairie, je rencontrais très souvent ce monsieur assez étrange, avec un caractère plutôt impossible, qui était très souvent souffrant de maladies nerveuses. Il a été du reste hospitalisé plusieurs fois. Et après, quand, hélas, les Allemands ont pris le dessus dans le nord de l'Italie, après que l'Italie avait signé l'armistice, ils ont appliqué les lois raciales d'une façon absolument terrible, Saba a eu la chance de pouvoir arriver à Florence et de vivre là jusqu'à la fin de la guerre.
On va entendre avec la voix de Umberto Saba cette évocation de cette grande figure triestine qu'on retrouve un peu, alors c'est un peu partout dans les livres triestiens, que ce soit parce qu'il est évoqué, parce qu'il est ami avec l'un ou l'autre, ou parce que tout simplement il vend les livres dans sa librairie. Et il faut signaler d'ailleurs que cette librairie a rouvert il y a quelques semaines après avoir été fermée pendant plus d'une dizaine d'années. Donc on peut, alors évidemment Saba n'y est plus, il y a sa statue au début de la rue et on peut voir Umberto Saba et retrouver un peu la boutique telle qu'elle était. C'est vraiment aussi un trait d'union, Umberto Saba. C'est un grand poète, mais c'est aussi un trait d'union un peu dans cette littérature triestine, Laurent Fénéreau.
Oui, en particulier avec Giotti qui a travaillé pour lui, qui a réalisé l'édition de certains livres qui ont été publiés par sa librairie. Les rapports entre les deux hommes étaient particulièrement complexes, mais Giotti est un interlocuteur privilégié de Saba. Saba avait d'ailleurs même envisagé de traduire en italien des poèmes de Giotti, et il y a renoncé en disant que c'était impossible.
Passons, si vous le voulez bien, à un autre grand moment de la littérature italienne en général, mais aussi de la littérature triestine, puisqu'il faut parler du futurisme et de cet extraordinaire et très surprenant poète, Federico Tizzoni, que vous publiez, donc Canonade, recueille lui aussi plein de coups de canon, puisque c'est un peu le moment, justement, du feu d'artifice de la poésie futuriste après la Première Guerre mondiale, Pietro Milli.
Oui, effectivement, en 1910, Filippo Tommaso Marinetti visite Trieste, et du coup, le mouvement futuriste se répand aussi dans cette ville, et Tizzoni en profite justement pour rédiger ce recueil, dont la caractéristique principale, c'est l'ambivalence, je dirais, puisque d'une part, on a l'impression qu'il s'agit d'un éloge du futurisme, et d'autre part, on comprend qu'en fait, il se moque gentiment de Marinetti.
Oui, c'est difficile de ne pas s'en moquer en même temps, parce qu'il y a quelque chose d'un peu outré dans la personnalité et les poèmes de Marinetti. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il s'en moque? Je pense qu'il en profite quand même aussi.
Oui, il en profite. Les dédicaces, le ton général du recueil fait qu'on ne sait pas exactement si c'est un recueil futuriste ou si c'est un recueil
de parodie
du futurisme. Et c'est toute l'ambiguïté de Tizzoni, dont c'est le seul recueil poétique. C'était un dramaturge, essentiellement. Il a écrit plusieurs textes pour des spectacles qui ont été joués exclusivement à Trieste et qui étaient des spectacles de provocation, d'amusement. Là, on a quelque chose qu'il est très difficile de situer dans une école littéraire. C'est du futurisme, mais est-ce que c'est tant du futurisme que ça? Je n'en sais rien. Et le préfacier d'ailleurs non plus, Elvio Guanini n'en sait rien.
Oui, on sent derrière quand même l'ombre du maître irréfutable du futurisme. Mais lui-même, Marinetti, n'est-il pas une parodie de Marinetti? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça aussi dans le futurisme lui-même ?
Absolument. Je trouve aussi que le mouvement futuriste est plein d'ambiguïté, par exemple dans son rapport au passé. Ce mouvement est historiquement lié aussi à la France, avec la publication du manifeste futuriste sur les colonnes du Figaro en 1909, puis avec la publication d'un roman futuriste de Marinetti, Mafarca, le futuriste en français. Un roman dans lequel il y a plein d'évocations de l'Antiquité, alors que c'est un mouvement qui se proposait de rejeter totalement la culture ancienne. Et on retrouve même dans le livre de Tizzoni une référence à l'Antiquité, puisqu'il y a un parallèle assez drôle dans la préface en guise de postface, où on peut lire qu'il y a une comparaison entre l'âme locteuse d'Homère et la triviale banalité de Virgile, d'une part, et puis d'autre part, la délicatesse et la légèreté de Fedor Tizzoni.
Ben oui, on sent qu'ils s'aiment bien, en tout cas. On peut peut-être en entendre un extrait, si ça vous ennuie pas, justement quelque chose d'extrêmement moderne, dans la rue silencieuse au magasin fermé.
Oui, per la strada silenziosa, con tutte le botteghe chiuse, si incontrano e si salutano, cordialmente, con gridi e con gesti, due gruppi di gente. È un gruppo di giovani allegri, con alcune ragazze, allegre e leggere. Perché leggere? Che hanno per selciato le stupide convenienze. Vanno per la città addormentata e portano in giro il profumo di splendidi muscoli guizzanti. È un gruppo di malviventi. Perché malviventi? Che vanno a sfondare le porte di un commerciante onesto. Oh, perché onesto? Per riempirsi le tasche. E se ne infischiano di polizia e poliziotti. Passa una cocotte, cocotte di poco prezzo, e passa un giovanotto. Giovinotto di pochi denari. Si incontrano e si salutano, perché si sono incontrati ed è notte, e senza mercanteggiare vanno assieme al caffè con allegra fraternità, con gridi di bestie libere. Tre giovanotti pieni di alcol e ricchi di sangue strappano ferri e maniglie, chiavistelli e turano buchi di serrature, rovinano i becchi del gas. Ogni 200 passi un poliziotto sta immobile, armato come una dreadnought. Ma tutti forti della notte, uomini e donne, ragazzi e ragazze, allegri e forti, ridono di quell'insetto, miseramente pagato. I nottambuli sono liberi. Il nottambulismo non è un governo. Non hanno i nottambuli principi che li governano, né ministri né parlamenti. Essi hanno soltanto la vita, sono vivi ed ha molto sangue, giovine e puro nel corpo. E quando la città si sveglia allo spuntar del giorno, al canto ignorante dei galli, i borghesi lavoratori e gli operosi operai, leggete assieme gli anemici, si mettono a lavorare affannosamente. I forti nottambuli vanno a dormire. Buongiorno!
Dans la rue silencieuse, au magasin tous fermés, se rencontrent et se saluent cordialement, avec cris et gestes, deux groupes de gens. C'est un groupe de jeunes joyeux, avec quelques jouvencelles, joyeuses et légères, pourquoi légères, qui ont pour pavé les convenances stupides. Ils vont par la ville endormie, et portent sur eux le parfum de splendides muscles frétillants. C'est un groupe de malfaiteurs, pourquoi malfaiteurs, qui vont défoncer les portes d'un commerçant honnête. Oh, pourquoi honnête ? Pour se remplir les poches. Et ils s'en fichent de la police et des policiers. Passe une cocotte. Cocotte à bon marché, et passe un jeune garçon désargenté. Ils se rencontrent et se saluent, parce qu'ils se sont rencontrés et qu'il fait nuit. Et sans marchander, ils vont ensemble au café, d'une joyeuse fraternité. Avec des cris de bêtes libres, trois jeunes garçons pleins d'alcool et de sang riche arrachent des fers et des poignets, des verrous et bouchent des trous de serrure, esquintent les becs de gaz. Tous les 200 pas, un policier se tient immobile, armé comme un dreadnought. Mais tout l'effort de la nuit, hommes et femmes, jouvencelles et jouvenceaux, joyeux et forts, rient de cet insecte misérablement payé. Les noctambules sont libres, le noctambulisme n'est pas un gouvernement. Les noctambules n'ont ni principe qui les gouverne, ni ministre, ni parlement. Ils n'ont que la vie. Ils sont vivants et ont beaucoup de sang, jeune et pur, dedans le corps. Et quand la ville se réveille, au lever du jour, au chant grossier des coqs, les bourgeois travailleurs et les ouvriers laborieux, lire ensemble les anémiques, se mettent à travailler fébrilement. Les forts noctambules s'en vont dormir. Bonjour. Et bienvenue dans le futur, en fait. Hein.
Oui, je voulais juste ajouter une chose, c'est que c'est une parodie d'un autre recueil futuriste ou à la lisière du futurisme qui s'intitule Revolverate de Luchini. Et donc Tizzoni, dans cette logique très futuriste de du plus grand, du plus fort, du plus musculeux, du plus sportif, du plus etc., etc., décide de passer du coup de revolver au coup de canon et de se confronter directement au recueil de Luchini. Et puis il faut ajouter que lui-même s'était engagé pendant la Première Guerre mondiale, a été sévèrement blessé pendant les combats et mort des suites de ses blessures au début des années 20. Donc c'est une existence brève, très peu documentée, inédite en Italie depuis l'apparition de l'édition originale. Ça fait 100 ans que Tizzoni n'est plus édité en Italie, que nous avons redécouvert grâce à un ami triestin.
Oui, c'est une belle collaboration aussi avec Trieste elle-même, c'est-à-dire que c'est un peu faire ressurgir un passé que même à Trieste, on avait oublié.
Enfin, cet auteur-là, en tout cas, à Trieste, était oublié, oui.
Alors, c'est pas le cas de Cergoli, qui lui a toute une fortune éditoriale, que ce soit en Italie et même en France, si je me trompe pas. Est-ce que les textes en prose avaient été traduits? Non, pas encore, non.
Pas encore.
Alors, Carolus L. Cergoli, c'est un pseudonyme, il s'appelle Carlo, je crois. Il signe avec un Y, mais ça s'écrit sans doute avec un I. Est-ce que c'est une façon aussi, encore une fois, de se travestir, de se rajouter un masque?
Ah, c'est une personnalité qui incarne, je crois, au mieux la Mitteleuropa de Trieste, parce qu'avec des origines autrichiennes, des origines hongroises, des origines dalmates et des origines italiennes. Donc lui-même porte dans son existence cette espèce de richesse de la Mitteleuropa.
Alors, il est né en 1908, mort en 1987, Carolus Cergoli. C'est le volume, le plus fort volume des éditions Triestiana, parce qu'en plus, il y a une très importante postface que vous signez et qui explique très bien tous les enjeux de ces textes. Ponte Rosso, sous-titré « Poésie mitteleuropéenne en lexique triestin ». Alors c'est très étrange, qu'est-ce que c'est que le lexique triestin, Pietro Mini?
Alors c'est difficile à définir, en tout cas ce qui caractérise selon moi la poésie de Cergoli, c'est le fait qu'il n'utilise pas la langue comme un instrument de communication, mais comme une matière à façonner. Et cette matière à façonner est constituée à son tour de différents éléments, c'est une mosaïque. Une mosaïque de langue qui reflète la mosaïque de culture à laquelle il appartient.
Mais sur le plan purement lexical, qu'est-ce que ça veut dire en fait ce lexique triestin?
Alors ça n'est pas le dialecte triestin au sens de Giotti qui écrit son poème intégralement en dialecte. L'idée de lexique triestin chez Cergoli, c'est de donner une image acoustique de la réalité des langues à Trieste. Ça veut dire qu'il y a de l'italien, il y a du triestin, il y a de l'anglais, de l'allemand, des traces de slovène, des traces de croate. Lexique, c'est ça. C'est de miroiter dans le poème la richesse linguistique de la ville. Donc il y a effectivement des mots de dialecte, mais la structure des phrases n'est pas dialectale et l'ensemble des poèmes n'est jamais dialectal.
D'ailleurs, j'ajouterais aussi que Cergoli utilise une très belle formule pour qualifier Trieste. Il dit que c'est la ville du si, du da et du ya. Donc les trois langues qui deviennent l'emblème de cette ville.
Ce qui est fou, c'est que la position de Cergoli, elle est vraiment justement un peu à cheval entre l'Empire austro-hongrois, l'ex-Empire austro-hongrois et l'Italie. Et pourtant, il naît en 1908, c'est-à-dire qu'il a 10 ans quand l'Empire disparaît. Donc pour lui, c'est vraiment le monde d'hier en réalité.
C'est un monde mythique, un monde rêvé, un monde projeté aussi, qui correspond à quelque chose qui est très actuel, qui est la question de la frontière et l'interrogation de ce qu'est une frontière. À une époque où, selon lui, il n'y en avait pas. On pouvait passer d'un pays à un autre, d'une langue à une autre, d'une culture à une autre, et c'est ce qu'il reflète dans son art poétique.
Ce qui est aussi très frappant, c'est sa géographie. Quand on lit ses poèmes, on se rend compte que il est très tourné vers le nord. Enfin, il regarde beaucoup, non seulement vers l'Autriche, mais plus loin, vers l'Allemagne. C'est un Italien qui ne va pas vers le méridional du tout.
Non, absolument. Et puis, c'est une poésie caractérisée comme celle de Fölk, l'autre auteur qu'on a traduit, caractérisée par le multilinguisme. Et donc, voilà, c'est une forme de mosaïque de culture qui se trouve reflétée dans sa poésie et qui sont marquées également par l'histoire, puisqu'il y a plusieurs poèmes de ce recueil où il y a l'évocation des drames de la Seconde Guerre mondiale.
Laurent Fenero, qu'est-ce que c'est ce Ponte Rosso alors?
C'est tout simplement le pont qui traverse le Grand Canal de Trieste. C'est un mot qu'il a utilisé pour plusieurs de ses recueils. On a plusieurs versions de ce recueil Ponte Rosso. Et nous avons choisi la dernière parce qu'elle est tripartite. Elle fait vraiment un triptyque d'un équilibre qui nous a semblé parfait. Une manière de retracer l'histoire à rebrousse-poil. Une première partie qui parle de la Trieste presque d'aujourd'hui, des gens qui l'habitent, des figures culturelles importantes, des paysages aussi de cette Trieste. Puis une deuxième partie qui dit les tragédies de la Seconde Guerre mondiale que vient d'évoquer Pietro, c'est-à-dire en particulier le camp d'extermination de la rizière de San Saba, qui est le seul camp d'extermination du bassin méditerranéen, dans lequel sont passés, par exemple, la femme de Stuparich, dans lequel est passée la famille de Michael Stetter, Carlo Michael Stetter, le philosophe. Donc un camp qui a connu les pires abominations de la Seconde Guerre mondiale. Et puis la troisième partie, c'est l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. Et pour Tiergoli, l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, c'est la naissance des nationalismes. Et la naissance des nationalistes, c'est la naissance de la barbarie et des barbelés.
Alors il faut signaler qu'il était aussi romancier, prosateur. Et donc il y a aussi cette partie-là de son œuvre où il explique, c'est ce que vous nous racontez dans la postface, justement un peu mieux les circonstances de création aussi de ses poèmes. C'est-à-dire qu'on voit un peu mieux son monde aussi avec ses romans et sa prose.
Ah, c'est un homme à multiples strates. C'est-à-dire qu'il commence sa carrière plutôt comme dramaturge, avec des pièces dont je n'ai pu trouver qu'un exemplaire d'une des pièces. Elles sont très confidentielles, elles ont été jouées vraiment localement. La deuxième partie de sa vie est une partie consacrée essentiellement à la poésie. Et à la fin de sa vie, il écrit trois romans, dont Le complexe de l'empereur, qui est une description de cet empire austro-hongrois effondré, qui est un roman qui a eu un succès considérable en Italie, qui a été un best-seller en Italie. Et Tiergoli, qui était inconnu avant, redevient inconnu après ce best-seller, retourne à un dernier recueil de poèmes qui est un recueil de poésie érotique, on peut dire les choses comme ça. Et en plus de ces trois strates, il était journaliste, il a fondé, après la Seconde Guerre mondiale, un journal dont on dit qu'il a été financé par l'argent du maréchal Tito, parce que c'était un homme très engagé, socialiste très engagé. Et en plus de ça, après avoir quitté la presse, il a travaillé comme galeriste.
Et ça, c'était dans les années 80, parce qu'il meurt en 87, si je ne me trompe pas. Et le roman est publié en 84, 82, je ne sais plus.
Juste à la fin des années 70 pour le premier, et 84 et 87 pour les deux suivants. Le dernier paraît, je crois, la veille de sa mort.
C'est un destin tout à fait particulier. Et là encore, on retrouve chez Carlo Tiergoli quelque chose comme l'idée d'un trait d'union, c'est-à-dire que tous ces gens se connaissent. C'est-à-dire que quand on lit votre postface, on pourrait la lire tout simplement aussi comme un espèce de manuel de Trieste, dans lequel on va retrouver un peu tous les grands moments, évidemment, de la ville, depuis cette nostalgie pour l'Empire austro-hongrois, mais aussi les contacts avec le reste des autres poètes, comme s'il y avait quand même, finalement, cette identité triestine, et se jouait vraiment là, quand même, dans quelque chose de très littéraire.
Oui, tout à fait. Laurent a réalisé un travail énorme de recherche à Trieste, et pas seulement, dans des bibliothèques. Il est entré en contact aussi avec des spécialistes, des professeurs d'université de Trieste, qui lui ont transmis des documents, aussi les descendants de ces différents poètes. Et ce travail lui a permis justement de reconstruire aussi les liens entre ces différentes personnalités. C'est un travail essentiel pour comprendre aussi, mieux comprendre certains poèmes qui peuvent parfois, en l'occurrence dans le cas de Tiergoli, être un peu complexes puisqu'ils sont pleins de références. Il a complété ce travail par un appareil critique qui est absolument considérable, dans lequel voilà, on met en évidence aussi cette intertextualité. Je vous donne un exemple. À un moment donné, il y a le mot « dragon » qui apparaît dans un poème de Tiergoli. On ne sait pas pourquoi. Et à force de creuser, on a compris que c'était une référence à une nouvelle de Rilke, personnalité bien sûr liée à la ville de Trieste.
Oui, lié aux fameuses élégies de Duino. Duino se trouvant à une dizaine de kilomètres sur le golfe de Trieste. Mais Laurent Fenéroux, est-ce que maintenant, au fur et à mesure, plus vous avez lu, traduit de cette poésie triestine, est-ce que vous avez une espèce de définition un peu d'une Trieste poétique qui s'est imposée à vous?
Non.
C'est pas comme un tableau, c'est pas comme si on rajoutait à chaque fois un peu une partie d'une grande peinture.
Je ne saurais pas dire parce que la question de la frontière est incontestable. Les tragédies de l'histoire sont omniprésentes. Le paysage et les caractéristiques de ce paysage, le blanc du karst, la couleur de la mer, la manière dont ces deux couleurs se mêlent et donnent cette teinte très particulière à la ville, c'est incontestable aussi. Le vent, la bora, qu'on retrouve régulièrement sous la plume de tous ces poètes aussi. Mais les formes sont des formes très différentes, des manières de s'exprimer très différentes, des rapports au réel très différents aussi. Chez Tiergoli, par exemple, c'est un poète difficile à traduire parce qu'il ne ponctue pas. Jamais. Vous ne trouverez aucune virgule, aucun point dans ses poèmes. Donc ça donne une espèce d'ouverture que vous ne trouverez pas chez, par exemple, Biagio Marine, que nous avons publié l'année dernière, qui lui ponctue. Les deux hommes se détestaient d'ailleurs. Il y a un rapport à la forme qui est très différent en fonction des poètes. Donc oui, sur les thématiques, mais sur les formes, je cherche encore.
Alors, il faut noter de Tiergoli que vous dites qu'il a rencontré Joyce,
oui,
quand il avait donc 12 ans, quelque chose comme ça.
Il était tout petit, il était au collège. Son professeur, qui était aussi un grand poète de Trieste, Dario De Tuoni, que nous espérons publier un jour, a envoyé les tout premiers poèmes de Tiergoli, qu'il compose donc vraiment adolescent, à Joyce. Et Joyce était plutôt satisfait de ce potentiel très jeune disciple.
C'est quand même incroyable, parce qu'on retrouve ces figures, alors vraiment, tutélaires de la littérature à Trieste, comme si d'abord la littérature commençait un peu avec le XXe siècle, ou en tout cas la toute fin du XIXe siècle commence avec Sulevo, et puis voilà, elle continue et dure jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a quand même voilà cet âge d'or, ces personnages qui sont pas vraiment des personnages, puisque on les retrouve, notamment, on se rend compte que même un poète comme Tiergoli, finalement, ben voilà, Joyce a lu ses poèmes, donc c'est une espèce de réalité, comme si le rêve devenait réalité un peu à Trieste, Pietro Milli.
Oui, et des poètes aussi qui se retrouvent dans des salons littéraires, c'est le cas du salon de Anita Pittoni, autre figure tutélaire de Trieste, où voilà, c'est Giotti, entre autres, se retrouver pour lire des poèmes, pour en discuter, et où les destins de ces différents poètes sont forgés. Anita Pittoni est un exemple emblématique de ces figures qui ont permis de créer, tisser des liens entre différentes personnalités, différents poètes, et qui leur a permis aussi d'émerger, de se faire un nom.
Oui, Anita Pittoni a un journal, d'ailleurs, qui traduit en français, auquel nous avions consacré une émission il y a ça quelques années déjà, mais qui est encore bien sûr consultable sur Internet. Oui, la société des poètes triestins. Ils sont tous sociétaires de cette grande société de l'imaginaire triestin.
Oui, nous publierons l'année prochaine un recueil de Claudio Grisancic, poète triestin en vie. Ce sera notre premier auteur vivant publié. Et Grisancic raconte comment il a été adoubé par Anita Pittoni, c'est-à-dire qu'il a passé un oral, littéralement un oral, devant des professeurs d'université, devant des artistes, devant Giotti et Stuparic. Il était très jeune, il avait 17 ans à l'époque, il n'avait encore rien publié, mais déjà beaucoup écrit, et c'est un rite de passage qui a contribué à son rayonnement dans la ville de Trieste.
Alors, je voudrais qu'on entende aussi un peu quelques vers de Tiergoli. Et pour montrer, voilà, son côté tout à fait mitteleuropéen, on pourrait lire, par exemple, ce qu'il dit du Danube et de la Save, page 180.
Wasser Donau, Voda Sava, e l'acqua della Brenta, un fluir de cicche e ciacche, che ne tormenta, e ragionar del viver, nebbia caligo, che cortel notaia, nero seren e nubilo rosato. Wasser Donau, me sona la luft pause, der grüne cacadu, con voce de Moissi. Grazie, dottor Schnitzler, per tutti i libelai, sognai e mai godudi. Voda Sava, viva in zattera conchiglia, Afrodite slovena, e l'urlo del negà, acqua come cadena. Torno al collo, de Chop Mattia, con 20 lingue in bocca, Vienna, Lubiana, fiume, guerra per l'alfabeto, e ancora l'urlo disperà, glottologia sommersa, col giovine negà. La brenta mi distendi, navigando in burchiello, tra i cavrioletti gemelli, declarice teatrante. Mi riposo, Giorgio Baffo lo sceno, dialogo amoroso, senza licenze e senza privilegio, e gran bocconi al son de campanella. Servo patron Florindo Maccheroni. Les dieux s'en vont, ma resta l'onda viva, della vita del mar con dentro le sirene, a coda doppia e l'ovulo fecondo, e m'indormenzo quieto, sora del canapè, nuvolo ben contento, ma le tre acque, col loro ciacolare cicche ciacche, verzi la piaga, in ombra me fa matto la trilamata spada. Mi cosa son, che acqua bevo, per quieto star, sora del canapè, in cuor un ritmo lieto, de poesia pensada in aria, fumando old splendor, bevendo vignac trenc, panduro a quattro stelle, nel manto dell'impero, in tabarrà, nuvolo ben contento son, finché la piaga lassa.
Vasa Donau, Voda Sava, et l'eau de la Brenta, un flux de flics et de flocs qui nous tourmente, la raison de vivre, brouillard caligo, que le couteau ne coupe, noir, serein et nuage rose, Vasa Donau, me joue la Luftpause, der grüne Kakadu. Avec la voix de Moïse, merci Dr. Schnitzler pour toutes les libelles, rêvées et jamais savourées. Voda Sava, Ziva au radeau coquillage, Aphrodite slovène et le cri du noyé, l'eau comme chaîne autour du cou, de Chop Matilla, 20 langues à la bouche, Vienne, Ljubljana, Fiume, guerre pour l'alphabet, et encore le cri désespéré, glottologie engloutie avec le jeune noyé, la Brenta me détend, navigant en burchiello parmi les chevreuils jumeaux de Clarisse Cabotine. Je me repose. Giorgio Baffo, l'obscène, dialogue amoureux. Sans licence et sans privilège, en grande bouchée, au son de la clochette, je sers maître Florindo Maccheroni. Les dieux s'en vont, mais reste l'onde vive de la vie de la mer, et dedans, les sirènes à queue double. Et l'ovule fécond, et je m'endors paisible dans le canapé, nuage bien content. Mais les trois eaux, leur bavardage et flic, floc, ouvrent la plaie, m'ombrage me rend fou, l'épée à trois lames. Que suis-je, moi qui bois l'eau pour rester paisible sur le canapé? Dans le cœur, un rythme gai de la poésie pensée dans l'air, en fumant des old splendors, en buvant du vignac trenc, pandour quatre étoiles, dans le manteau de l'empereur, emmitouflé, nuage bien content je suis, tant que la plaie me le permet. On entend vraiment justement, voilà, l'Empire, toutes ces langues se mélangent. Très difficile à traduire, ça, pour le coup, Laurent Fenero, non? Et Pietro Milli, vous avez dû suer sur les poèmes de Tiergoli, quand même.
Oui, parce que l'absence de ponctuation rend parfois problématique l'attribution d'un verbe ou d'un adjectif à tel ou tel nom. Et la tentation est grande de rajouter des virgules pour essayer de rendre le sens plus compréhensible, mais ce serait complètement trahir la pensée de Tiergoli que de ponctuer. Donc nous avons laissé en l'état sans ponctuation en essayant de garder au maximum les ambiguïtés du poème original.
Alors, ambiguïté, je ne sais pas si c'est... Oui, ambiguïté, c'est peut-être tout simplement une forme de communication souterraine un peu qui s'établit entre les différents éléments.
Oui, un champ de possibles, d'interprétation possible. Il y a un véritable travail sur la syntaxe qui rend, même pour un Italien, difficile la lecture de certains poèmes. Je pense par exemple à un poème où il évoque un prisonnier qui a été torturé, auquel on a arraché les ongles et qui finalement finalement décède. C'est un poème qui rappelle d'ailleurs un tout petit peu le Dormeur du Val de Rimbaud. Et puis, on voit justement que le poème devient à l'image de ce corps démembré du prisonnier. Donc, pour traduire ça, effectivement, c'est un pari difficile, très difficile. C'est pourquoi aussi on a choisi de présenter les livres en édition bilingue, puisque ça permet aux lecteurs de dialoguer avec l'original et de se faire une idée aussi du texte de départ.
Oui, et surtout peut-être de bien voir que toutes ces juxtapositions, ces jeux entre les langues sont déjà présents, puisqu'on a entendu qu'il utilise même le français, l'allemand, dans l'original, Laurent Funeraud, c'est aussi la matière de cette poésie mittel-européenne.
Oui, et puis de donner à entendre dans un même poème chez Tchergoli, de donner à entendre aussi des langues qu'on ne connaît pas, le dialecte de Grade ou le Graisan, ou le dialecte de Trieste, de mesurer aussi, à la lecture de ces poèmes dialectaux, le hiatus avec l'italien dominant. C'est-à-dire, effectivement, il y a des mots que n'importe quel italien peut comprendre immédiatement, mais il y a toujours un petit écart, une petite manière différente, soit de les orthographier, soit de les accentuer, qui fait que on a ce hiatus en permanence et qu'il est indispensable d'avoir le texte en vis-à-vis de la traduction pour mesurer ces hiatus.
Alors, une dernière question. Pour l'éditeur des éditions Triestiana, le prochain projet, alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvelle vision de Trieste? Des projets ou désirs, par exemple, qui pourraient se réaliser dans l'avenir?
Alors, il y en a plusieurs. Il faut d'abord dire que cette maison d'édition doit son existence aussi à Michel Valency et aux éditions de l'Éclat, qui copublient l'ensemble des livres. Et Michel nous a accueillis avec une générosité que je tiens à souligner. L'année prochaine, nous publierons deux recueils. Un de Claudio Grisancic, un poète en dialecte triestin dans le sillage, je pourrais dire, de l'œuvre de Virgilio Giotti, et puis un très puissant recueil qui s'intitule La Bouffa de Giulio Camberg-Barni, qui est un recueil qui a été partiellement écrit dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Et cet homme relate l'existence dans les tranchées, la vie dans les tranchées, la vie quotidienne dans les tranchées, les langues qui s'y croisent là aussi, les différents dialectes qui s'y croisent, pas seulement le dialecte triestin, mais aussi le dialecte napolitain, enfin les dialectes qui font l'Italie, qui faisaient les soldats, l'armée italienne de la Première Guerre mondiale, avec une force et l'un des rares poèmes épiques italiens du XXe siècle.
Magnifique, on a hâte. En tout cas, longue vie aux éditions Triestiana. Merci beaucoup, Laurent Funeraud. Et merci beaucoup, Pietro Milli, de nous avoir rendu visite aujourd'hui. La conversation littéraire est réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Benjamin Vignal à la technique aujourd'hui. La préparation en est assurée par Aurélie Marseille. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. Mais d'ici là, vous pouvez bien sûr réécouter ou podcaster la conversation littéraire sur l'appli de Radio France et le site web de France Culture. Bonne fin de samedi sur France Culture.